Voici une question dont la réponse pourrait transformer votre vie. Est-il important de s'arrêter sur le fait que la mort pourrait nous surprendre? La parole de Dieu va nous donner une réponse claire et vitale aujourd'hui même à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Quelle belle leçon on va avoir aujourd'hui à travers le récit de la vie de David. On n'a que quelques questions, mais on peut s'attendre à un enseignement bien riche du grand livre de Dieu. Voici nos questions. Est-il possible que deux hommes aient une amitié saine qui soit encore plus profonde que l'amour d'un homme et d'une femme? Jusqu'où l'orgueil et la jalousie peuvent-ils mener un homme? Si nous persistons à demander à Dieu une chose qui n'est pas pour notre bien, est-il possible qu'il nous l'accorde à notre détriment? Est-il important de réaliser qu'il n'y a qu'un pas entre nous et la mort, qu'elle pourrait nous surprendre à n'importe quel moment? Je trouve qu'on a là quatre bonnes questions, et je suis convaincue que le Seigneur va nous enseigner de belles vérités par la bouche du pasteur Régent Joly en réponse à nos questions. Mais premièrement, réclamons la présence de Dieu. Demandons-lui qu'il fasse pénétrer sa parole dans nos cœurs. Prions. Ô Seigneur, on désire entrer dans ta présence. On vient à toi humblement, te demandant de purifier nos cœurs de tout péché, afin qu'on puisse vraiment jouir de ta présence et entendre ta belle voix parler à nos cœurs, nous enseigner ce que tu désires. Parle-nous, Seigneur. On veut goûter à ta présence aujourd'hui. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que David fut oint par Samuel afin de succéder à Saül sur le trône de la nation. C'est sous le couvert d'un sacrifice que le prophète se rendit chez Isaïe, à Bethléem, afin d'oindre le fils cadet de la famille. Aussitôt que David reçut l'esprit, celui-ci se retira de Saül. Un mauvais esprit venant de Dieu agit en Saül. On fit venir David au palais afin qu'il calme le roi en jouant de la harpe lors de ses crises. Le nouveau roi entre ainsi dans le palais. Puis, lors d'une guerre contre les Philistins, David tua le géant Goliath en utilisant sa fronde. David devint un héros militaire. Saül fut rejeté parce qu'il refusait d'obéir à Dieu. Et celui-ci choisit David, un homme selon son cœur, pour remplacer le roi Saül. David aimait Dieu, et il lui ouvrit les portes. Nous avons vu que Dieu regarde au cœur d'une personne, et non à son apparence extérieure. Quelle belle leçon a été apprise la dernière fois. Chers amis, débutons notre lecture. 1 Samuel chapitre 18, verset 1er. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Une amitié belle et noble. Saül avait convoqué David afin de le remercier après le combat. Plus tard, Saül a dû penser qu'il avait accordé trop d'honneur à David, si l'on juge par les événements que nous verrons. Alors que Jonathan, le fils de Saül, écoutait la conversion entre David et son père, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Il se développa une amitié merveilleuse entre ces deux hommes. Nous parlons souvent de l'amour entre un homme et une femme, mais rien n'est aussi beau et noble qu'une amitié saine entre deux hommes. Ils voient l'un dans l'autre leurs propres réflexions et ils sont attirés l'un à l'autre. Il peut y avoir une amitié profonde entre deux hommes. Ils peuvent faire du sport et des activités de loisirs ensemble. Ils peuvent travailler ensemble et avoir une vie sociale commune. Nous avons déjà vu que Jonathan était une personne exceptionnelle. Il aima David pour son courage et sa confiance en Dieu. Verset 2. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. David devient un personnage célèbre, et il en sera ici toute sa vie. Verset 3. Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme son âme. Ces deux hommes se sont engagés à s'appuyer mutuellement. Il est difficile de trouver une amitié aussi grande que celle qu'il eut entre ces deux hommes. Verset 4. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David était un paysan, et il n'avait pas une garde-robe qui correspondait à un chef militaire. Jonathan partagea sa garde-robe avec lui. Ce fut un geste généreux. Verset 5. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. David avait une personnalité charismatique, et le public l'aimait. Il était un grand homme. Dieu a regardé à son cœur, le peuple à son apparence, mais David était beau de l'intérieur et de l'extérieur. David n'était pas sans péché, mais il aimait Dieu et le peuple le respectait pour cela. Versets 6 à 9. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit, « On en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Et Saül regarda David d'un mauvais œil, à partir de ce jour et dans la suite. L'orgueil et la jalousie mènent très loin, chers amis. Saül n'a pas apprécié ce que les femmes chantaient, et il devint jaloux envers David. Nous verrons que Saül va chercher à faire périr David. Au fur et à mesure que la popularité de David auprès du peuple augmente, Saül devient de plus en plus froid à l'égard de David. Poursuivons notre lecture, les versets 10 et 11. Le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül, qui eut des accès de délire au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui deux fois. Saül voulait se débarrasser de David de façon permanente, mais David quitta les lieux. Versets 12 à 16. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. La popularité de David augmente. Pour se défaire de lui, Saül lui promet sa fille Merab en mariage s'il combat les Philistins. Il espère que David succombera pendant un combat. Cependant, il donne Merab à un autre homme. Ensuite, il donne Michal, sa fille cadette, à David. Pourquoi? David ferait partie de la famille et Saül pourrait mettre la main sur lui lorsqu'il le voudra. Lisons maintenant le verset 20. Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül, et la chose lui convint. Je ne pense pas que Michal aimait David d'un amour pour réussir un mariage. Au début, elle aimait un beau héros populaire. Un jour, elle méprisera David pour son enthousiasme pour Dieu. Au chapitre 19, Saül essaiera de tuer David. La vie de David sera en danger jusqu'à la mort de Saül. Pendant environ 10 ans, Saül pourchassera David qui a dû s'exiler. Cependant, à travers ces épreuves, Dieu forme David. Il deviendra le plus grand roi d'Israël. De nombreux psaumes furent rédigés pendant cette période éprouvante. David était un homme selon le cœur de Dieu. Chers amis, débutons notre lecture du 19e chapitre de 1 Samuel, les versets 1 et 2. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. » Jonathan avertit David de se cacher car sa vie est en danger. Saül ne se cache plus et essaie ouvertement de faire périr David. Cependant, Jonathan aide David. Versets 3 et 4. « Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. » Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. « Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. » Jonathan va parler à son père en faveur de David. Il va tenter de le raisonner en lui rappelant tout le bien que lui a fait David. Versets 5 à 7. Il a exposé sa vie. Il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu, et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent, et ferais-tu sans raison mourir David? Saül écouta la voix de Jonathan, et il jura, disant, « L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. » Jonathan appela David et lui rapporta toutes ses paroles. Puis, il l'emmena auprès de Saül, et David fut à son service comme auparavant. Saül écouta la voix de son fils et permit à David de revenir au palais. Cependant, David était méfiant, car il savait que sa vie était en danger. Versets 8 à 10. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite, et ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit, venant de l'Éternel, fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait, et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui, et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Le mauvais esprit vient de nouveau sur Saül, et il essaie de tuer David. David sait qu'il n'est plus en sécurité dans le palais de Saül, même s'il est son beau-fils. Avoir Michal comme épouse ne le protège pas, donc il s'enfuit. Versets 11 à 13. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit, « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre, et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite, Michal prit le téraphim qu'elle plaça dans le lit, elle mit une peau de chèvre à son chevet, et elle l'enveloppa d'une couverture. Au début, Michal se rangea du côté de David, et elle l'avertit des projets meurtriers de Saül. Elle l'aide à s'enfuir par une fenêtre. Elle arrange le lit de façon à ce qu'on pense que David s'y trouve. Versets 14 à 17. Lorsque Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit, « Il est malade. » Saül les renvoya pour qu'ils le voient, et il dit, « Apportez-le-moi dans son lit, afin que je le fasse mourir. » Ces gens revinrent, et voici le téraphim était dans le lit, avec une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal, « Pourquoi m'as-tu trompé de la sorte, et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé? » Michal répondit à Saül, « Il m'a dit, laisse-moi aller, ou je te tue. » Saül, découvrant la ruse, demanda des explications à sa fille. Elle apaisa son père en affirmant que David l'aurait tuée si elle avait refusé de l'aider à s'enfuir. Verset 18. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis, il alla avec Samuel demeurer à Najoth. Parce que Samuel a oint David, sa vie est aussi en danger. Saül cherche ouvertement à tuer David. Il n'essaie même plus de le faire secrètement. Désormais, David vivra en hors la loi. Il devra se cacher d'un endroit à l'autre. Il en sera ainsi jusqu'à la mort de Saül, c'est-à-dire environ 10 ans. Saül savait que Michal avait aidé David à s'enfuir et qu'une amitié solide liait son fils Jonathan avec David. Donc, Jonathan dut être prudent lorsqu'il communiqua avec David et il le fit en secret. C'est la raison pour laquelle il employa une méthode inusitée. Chapitre 20, verset 1er. David s'enfuit de Najoth, près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit, « Qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? » David demanda ce qu'il avait fait. Il n'avait jamais fait de tort à Saül. De plus, il l'avait même aidé. Mais Saül n'était pas un roi et il ne le fut jamais. Dieu l'a toujours su et son choix ne s'est jamais porté sur Saül. Le peuple voulait un roi comme Saül et Dieu leur en accorda un. Le peuple eut un roi au dépérissement de son âme. Dans le désert, lorsque le peuple exigea de la viande, l'Éternel leur envoya des cailles. Il lui accorda ce qu'il avait demandé. Mais il était évident que le peuple ne faisait pas confiance en Dieu. S'il avait fait confiance en Dieu, il aurait été heureux de la manne et il n'aurait pas pleuré pour obtenir de la viande. Les Israélites auraient éprouvé de la joie et de la paix dans leur cœur. Si nous persistons à exiger une chose de Dieu, il nous l'accordera à notre détriment. De nombreux chrétiens sont toujours à supplier Dieu pour obtenir ceci ou cela. Ils ne sont pas disposés à attendre calmement que Dieu travaille dans leur vie. De nombreuses fois, lorsqu'il nous accorde notre requête, nous disons « C'est merveilleux, Dieu a répondu et exaucé ma prière. » Pas nécessairement, chers amis. Il arrive que nous le supplions pour une chose et qu'elle s'avère la pire idée que nous ayons jamais eue. Si nous importunons Dieu, il peut nous donner ce que nous désirons, mais la chose vient avec le dépérissement de notre âme. C'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël qui voulaient que Saül règne sur eux. Il provoqua des problèmes dans le pays. David ne comprend pas pourquoi Saül lui en veut tant. Verset 2. Jonathan lui répondit, « Loin de là, tu ne mourras point. Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il celle-là? Il n'en est rien. » Jonathan s'engage à avertir David si son père tente quelque chose contre lui. Verset 3. David dit encore en jurant, « Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux, et il leur a dit, « Que Jonathan ne le sache pas, cela lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. » Vous pouvez vous retrouver devant Dieu à tout moment. Quel énoncé! Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Ce n'était pas ainsi seulement au temps de David, mais ce l'est encore aussi à notre époque. Lorsque tu conduis sur une autoroute, tu es à un pas de la mort. Ésaïe a dit qu'il n'y a qu'un battement de cœur entre la vie et la mort. La mort peut nous surprendre à tout moment. C'est pourquoi nous devons être prêts à rencontrer notre Créateur dans l'éternité. De nombreuses personnes font des arrangements pour leurs funérailles bien avant leur décès, mais elles oublient d'en faire pour l'au-delà. Laissez-moi vous poser cette question. Êtes-vous sauvé? Faites-vous entièrement confiance à Jésus-Christ pour le salut de votre âme. C'est ce que vous devez faire pour vous retrouver en présence de Dieu. S'il vous plaît, ne reportez pas la chose à plus tard. Recevez le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, maintenant. Nous retenons trois points importants de l'émission d'aujourd'hui. Le premier, l'orgueil et la jalousie peuvent nous détruire. Nous voyons Saül s'enfoncer dans son péché au point de devenir un assassin. Il veut toute la gloire et il n'est pas prêt à la partager avec qui que ce soit. Nous remarquons un progrès dans le péché chez Saül. Au début, il tente de tuer David de façon discrète. Bientôt, il ne cachera même plus sa haine et c'est ouvertement qu'il s'en prendra à David. Combien de ministères furent détruits par l'orgueil? La discorde éclate parce qu'une personne veut la première place ou elle est jalouse du succès d'un autre. Chers amis, qu'il n'en soit pas ainsi entre vous. Deuxième point. Dieu peut nous accorder une requête si nous n'acceptons pas sa réponse négative. J'ai connu une chrétienne qui pleurait parce qu'elle n'avait pas de mari. Dieu a permis qu'elle épouse un homme. Mais celui-ci la rendit encore plus malheureuse. Si nous avons du péché à régler dans notre vie, si nous avons à travailler nos relations interpersonnelles, Dieu peut nous refuser un conjoint. Insister pour en avoir un ne peut que nous rendre plus malheureux. Et le troisième et dernier point, sommes-nous prêts à mourir? Avez-vous accepté le Seigneur Jésus-Christ pour obtenir le pardon de vos péchés et la vie éternelle? Dieu vous a-t-il régénéré par son esprit alors que vous avez accepté le Seigneur Jésus dans votre vie? Voici un texte des Saintes Écritures, tiré de 1 Jean chapitre 5 verset 13. Je vous écris ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Dieu veut que nous sachions où nous irons après la mort. Il veut que vous sachiez qu'il n'y a qu'un seul chemin pour se rendre à Dieu. Jésus-Christ a déclaré, lorsqu'il était ici-bas sur cette terre, remplissant son ministère et accomplissant la volonté de son Père, rapporté par l'évangéliste Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus déclare, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le seul accès pour nous emmener, nous conduire au Père céleste, c'est Jésus. L'avez-vous accepté comme votre sauveur personnel? Êtes-vous prêt à mourir, à passer dans votre éternité? Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous y préparer, pour nous indiquer la direction à prendre, afin que nous ayons l'assurance, la certitude d'être des enfants de Dieu et d'avoir une place auprès de lui pour l'éternité. Vous savez, chers amis, qu'il existe une ignorance dangereuse, celle de ne savoir où je serai pour l'éternité. C'est très inquiétant de voyager sans savoir où l'on va, sans connaître l'aboutissement du chemin que l'on suit. Sais-tu où tu vas? Tu te sens peut-être comme cette personne perdue dans les bois, dans la forêt, ne sachant maintenant où trouver un accès pour s'en sortir. La vie comme cela, c'est ce que la Bible déclare. Chacun suivant sa propre voie, par le fait même, s'égarant, s'éloignant du seul chemin qui peut nous conduire à la lumière, à la présence de Dieu. La Bible précise qu'il y a deux chemins. Un large, spacieux, qui mène à la mort. L'autre, resserré, étroit, qui mène à la vie. Sur quel chemin te trouves-tu? Emprunte celui que Dieu t'indique. Jésus, il est le seul chemin qui mène au Père. Chers amis, prochaine émission, 1 Samuel chapitre 20 verset 3 à chapitre 21 verset 15.
Oh, merci beaucoup, Régent. Tu as dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Il m'arrive de temps en temps de rencontrer des personnes et de penser la même chose à leur sujet. Par exemple, il y a quelques mois, j'ai fait une tournée de l'Ontario pour visiter des églises qui soutiennent le ministère de Radio Espoir. J'ai conduit jusqu'à Toronto et de là, j'ai fait toute la tournée avec un homme et son épouse des gens qui sont réellement consacrés. Je ne dirais pas à l'œuvre de Dieu, mais encore mieux que ça, consacrés à Dieu lui-même. À chaque endroit qu'on visitait, après que j'ai chanté quelques cantiques et donné mon témoignage de conversion et de ministère, cet homme prêchait l'Évangile à nos frères et sœurs ontariens. Et à travers ses prédications, il était évident que son cœur pleurait pour le Québec, qui est l'un des endroits dans le monde où il y a le plus petit pourcentage de chrétiens nés de nouveau par la foi en Jésus-Christ. Mon cœur était vraiment touché de l'entendre parler. Et même, je crois que je suis revenu de l'Ontario avec un fardeau encore plus grand pour le salut des Québécois qu'il ne l'était auparavant. Les derniers soirs de la tournée, je ne pouvais m'empêcher de dire aux gens que j'étais convaincu que ce frère en Jésus-Christ était un homme selon le cœur de Dieu. Ils avaient l'air d'être d'accord avec moi, parce que plusieurs d'entre eux le connaissaient déjà. Une autre chose que Régent a mentionnée aujourd'hui, c'est le fait que nous pourrions nous retrouver devant Dieu à n'importe quel moment et qu'il fallait être prêt. Ça me fait penser à un verset que plusieurs connaissent dans le livre d'Amos. C'est au 4e chapitre, à la fin du verset 12. Il dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Il y a 2 ou 3 ans, j'ai fait venir une centaine de petits dépliants intitulés « Trouver l'erreur » afin de les donner à ceux à qui Dieu me le met à cœur. Laissez-moi vous lire ce que ça dit au sujet d'un certain homme. Il n'affrontait jamais la pluie sans son parapluie. Il portait toujours son casque quand il faisait du vélo. Il se couchait tôt chaque soir et dormait au moins 8 heures par nuit. Il prenait ses vitamines chaque matin et suivait un régime bien équilibré. Il se souciait de l'environnement et travaillait pour sa ville bénévolement. Il était honnête et disait toujours la vérité. On lui faisait confiance et on s'attachait vite à lui. Il était sportif et s'entraînait régulièrement. Il ne prenait pas de drogue, il ne buvait pas, il ne fumait pas. Il étudiait fort et cela se démontrait dans ses notes à l'école. S'il était malade, il ne prenait pas de chance et allait consulter un médecin. Sa vie était toute planifiée. Il pensait prendre sa retraite, aller aux Bahamas et vivre très vieux. Il maîtrisait vraiment chaque détail de sa vie. Mais son enterrement aura lieu lundi. Il avait tout prévu pour sa vie terrestre sans se préparer pour son éternité. Sa seule erreur, il a oublié Dieu. Il n'avait pas prévu qu'un jour, il devrait rendre compte de sa vie à Dieu. Il n'a pas reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Il n'a pas reçu le don gratuit de la vie éternelle.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Régent?
Mais qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, devons répondre à la question.
J'aimerais savoir, j'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu.
Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie.
Oui.
Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie.
Maintenant, nos auditeurs en bénéficient.
Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie.
C'est merveilleux.
Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures.
Ouais.
Des chrétiens évangéliques.
Oh là là.
Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie.
C'est la vérité.
Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, via courriel.
www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. À demain.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.